La voix des jeunes face aux addictions. Une action jeunesse pour garder des bonnes ondes. Avec Info RC, cultivons des attitudes positives pour notre santé.
Une action soutenue par l'ARS, l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, la MIDECA, Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et les Conduites Addictives et l'Éducation Nationale.
Aujourd'hui, nous parlons de prévention tabac sur Info RC.
Avec Xavier Fenouille de la Ligue contre le cancer. Bonjour Monsieur Fenouille.
Bonjour.
Pour commencer, on va parler de la Ligue et de votre travail.
Vous êtes tabacologue et directeur de la Ligue Ardèche. En quoi consiste votre métier ?
Alors déjà, la Ligue contre le cancer, on est là pour soutenir les personnes dans l'épreuve de la maladie, soutenir les personnes malades et les proches. On a diverses prestations, services totalement gratuits pour les personnes. Ça peut être du soutien psychologique, de l'accompagnement physique au travers de l'activité physique adaptée. On va avoir des diététiciennes, on va avoir des socio-esthéticiennes pour soulager des effets secondaires, etc. Ça fait partie de la première mission de la Ligue. La deuxième, c'est de financer la recherche. La Ligue, c'est le premier financeur privé de la recherche en France. C'est grâce à des dons qu'on reçoit régulièrement qu'on arrive à faire avancer la recherche en France. L'an dernier, on a réussi à collecter 120 000 euros environ, qu'on a pu reverser à 10 équipes de recherche régionales et nationales. Et la troisième mission de la Ligue contre le cancer, c'est ce qu'on est en train de faire ensemble aujourd'hui, c'est l'information, la prévention et l'incitation au dépistage. On sait aujourd'hui que certains facteurs, certains comportements expliquent l'apparition de cancer. Donc on essaie d'expliquer au grand public ce qu'on peut faire pour essayer d'éviter certains cancers, comment s'en prévenir, essayer d'intervenir au plus tôt. Et en tant que tabacologue, un tabacologue, c'est un professionnel qui accompagne les personnes qui sont fumeuses, qui veulent arrêter de fumer ou qui veulent avoir des repères. Les consultations de tabacologie sont gratuites, donc on peut aller rencontrer des tabacologues pour se renseigner ou pour arrêter de fumer, on peut y aller dans les deux cas.
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? Qu'est-ce qui vous plaît ?
Moi, de formation, je suis psychologue. Ce qui m'intéressait au départ, c'était ce qu'on appelle la clinique, c'est-à-dire rencontrer les personnes qui sont dans une épreuve, quelle qu'elle soit. Je voulais rencontrer les personnes atteintes de cancer et par aventure, je me suis mis à rencontrer aussi des personnes qui étaient dans le tabac et qui avaient la crainte d'un jour développer une maladie comme le cancer. Donc j'ai eu à souhait de me former et essayer de les accompagner pour éviter justement cette entrée dans la maladie. Et c'est pour ça que j'ai continué. Je suis toujours psychologue et je suis toujours tabacologue.
Quelles sont les ambitions de la Ligue contre le cancer ?
La Ligue contre le cancer, c'est une association plutôt militante. C'est-à-dire qu'on essaie de faire évoluer les mentalités, changer le regard de la société face au cancer, c'est-à-dire faire en sorte que les personnes qui sont dans l'épreuve de la maladie soient peut-être mieux accompagnées, soient mieux considérées dans la société, y compris lors du retour au travail, parce qu'avoir été malade, c'est déjà une épreuve, mais parfois retourner au travail aussi, c'est une épreuve. Donc on est là pour changer un petit peu toutes ces choses qui influencent la qualité de vie des personnes. Et puis on est là aussi pour faire avancer la société sur des facteurs de prévention. On sait aujourd'hui qu'on a la chance d'avoir des dépistages organisés, par exemple le cancer du sein, dépistage du cancer colorectal, puisqu'on est en mars bleu. C'est une campagne qui nous tient beaucoup à cœur parce que malheureusement, les Ardéchois ne se font pas beaucoup dépister, alors que c'est une arme redoutable contre le cancer, le dépistage. Donc la Ligue contre le cancer, elle a pour mission d'encourager, peut-être de rassurer les personnes pour qu'elles aillent se faire dépister. Je rappelle, mars bleu, c'est pour les hommes et les femmes entre 50 et 74 ans. C'est une période plus à risque pour le cancer colorectal. On invite les personnes à aller retirer un kit de dépistage, un dépistage qu'on fait chez soi, qui est totalement gratuit et qui permet d'intervenir souvent, et dans le meilleur des cas, avant l'apparition d'un cancer. Donc c'est une très bonne attitude à trouver, à prendre en main. Mais malheureusement, aujourd'hui, on n'a que 30% des Ardéchois qui participent au dépistage. Donc il faut encourager les personnes que l'on aime à participer, à se faire dépister.
Quels sont les projets de la Ligue en ce moment ?
Alors on sort du coup de la campagne Mars Bleu effectivement, donc ça a été pas mal d'actions, il y en a encore qui sont en cours, on est beaucoup présent dans les pharmacies, et puis après on va entrer dans une période un peu plus chaude normalement, avec la prévention des cancers de la peau, parce qu'on parle beaucoup du soleil, on se protège de moins en moins, on connaît de moins en moins les codes pour se protéger et se prémunir du soleil. Le soleil, c'est très bon pour la santé, notamment pour le moral, hein, mais pas seulement. Mais il est aussi un facteur de risque quand on se conduit pas bien avec lui, donc il faut apprendre à vivre avec. Et c'est pour ça qu'on va développer une campagne aussi de prévention autour des cancers de la peau.
Maintenant, parlons du tabac et de la puff.
Pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens qui s'intéressent au tabac et à la puff ?
Alors, je ne sais pas s'il y a autant de gens qui s'intéressent, de moins en moins, en tous les cas, on fume de moins en moins en France. Souvent, quand on questionne les personnes de savoir s'il y a beaucoup de fumeurs en France, les personnes nous donnent des chiffres comme 50, 60, 70%. En fait, le tabagisme, c'est quelque chose qui se perd. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est difficile à déterminer, les chiffres oscillent entre 15 et 20% de fumeurs en France. Ça veut dire que c'est un comportement qui se fait démoder. Le problème, c'est qu'il se fait de plus en plus jeune. Ça veut dire qu'au-delà de 30, 40 ans, on fume moins. Par contre, on fume beaucoup autour de 18 ans et avant. C'est une tranche d'âge la plus à risque. On sait que c'est plutôt les jeunes qui fument. Alors, parfois, pour se donner un air un peu plus grand, alors que c'est plutôt les jeunes, voire les très jeunes qui fument. Et c'est un comportement qui est à risque, on va en parler. Donc, l'idée, c'est surtout qu'on arrive à changer le regard sur le tabac aussi, qui jouit encore d'une image positive. Les gens pensent que c'est peut-être encore bien de fumer. Donc, c'est rappeler, en tous les cas, la réalité de ce comportement. Alors, pourquoi est-ce qu'on en parle autant? Peut-être parce qu'on est loin d'avoir réglé le problème. Malgré tout, le tabac, il occupe beaucoup de place encore dans notre société, y compris dans le cinéma, dans l'art en général. Il faut qu'on arrive à dénormaliser le tabac. Et ça, c'est aussi un travail qu'a mené la Ligue pendant longtemps, puisque notamment sur Aubenas, on avait créé le premier espace sans tabac d'Ardèche. C'était place de l'Agora, devant la poste d'Aubenas. Donc c'était montrer que voilà, le tabac ne doit pas occuper toute la place. Au contraire, on doit lui accorder peut-être la place qu'il mérite, c'est-à-dire pas une trop grosse place, parce que le tabac, c'est un polluant et c'est surtout un toxique pour notre organisme.
Comment faites-vous pour les aider à la Ligue ?
Aider les fumeurs, c'est d'abord accueillir un discours. C'est un peu compliqué et un peu technique, mais les fumeurs, ils fument pas pour rien en général. La majorité d'entre eux aiment fumer. Une certaine partie de ces fumeurs ont commencé de fumer peut-être pour se sentir bien en société, pour lutter contre le stress social, parce que ça ne détend pas, hein, le tabac, c'est plutôt un excitant. Mais parfois, en société, on se sent plus à l'aise avec une cigarette. En tous les cas, certains le prétendent. Certaines personnes jouent un peu avec leurs émotions, avec le tabac. Quand ils sont déprimés, ils prennent une cigarette. Quand ils sont inquiets, ils prennent une cigarette. Et quand ils s'ennuient, ils prennent une cigarette. Donc on doit essayer de comprendre pourquoi on fume, pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut aider les personnes à arrêter de fumer. Parce que quand on a besoin de béquilles pour marcher, si on retire les béquilles, on ne marche pas mieux. Si on est blessé, si on est handicapé, le tabac, c'est un peu la même chose. Si la personne, elle est fragilisée en société, si elle se sent trop stressée, trop déprimée, trop que sais-je encore, il va falloir s'assurer qu'on ne la mette pas en difficulté en arrêtant de fumer. Donc on va essayer de proposer des alternatives, voire des solutions parfois. Et puis il y a un autre phénomène, c'est la dépendance physique, les personnes qui s'en manquent. Le cerveau s'est tellement habitué à un des produits contenus dans la cigarette, comme la nicotine, que lorsqu'il essaie d'arrêter de fumer, le fumeur se sent en souffrance. Donc là aussi, il y a des approches qui sont proposées, notamment même des médicaments qui viennent soulager. On parle de substitution nicotinique.
Qui c'est qui s'est dit, tiens, on va créer un truc pour tuer des gens?
Je ne sais pas si c'est comme ça que ça a été pensé, je ne pense pas en tout cas. Historiquement, le tabac, ça vient d'Amérique. Lorsque Christophe Colomb débarque, hein, en 1492, il découvre les Indiens et il découvre aussi le tabac. Il découvre plein de choses, en fait, là-bas. Hein. Les Indiens connaissent le tabac, ils le consomment. Alors, ils le consomment, ils le fument dans la majorité des cas. C'est plutôt les prêtres, hein, qui fument, ce n'est pas la population. Ça a une valence un peu spirituelle, ça veut dire qu'en fumant, on prend des grandes tiges de bois creux, on le bourre de tabac séché, on met du charbon, ça fait de grosses volutes de fumée, enfin vraiment, ça doit vraiment faire tourner la tête quand on respire ce genre de choses. Et donc les prêtres, comme on pourrait les qualifier, avaient le sentiment que ça les rapprochait des divinités, des dieux. Et en ce sens, ça avait une valence spirituelle. Quand on a ramené ce tabac en Europe, nous, on pensait que ça pourrait servir peut-être de médicament. On avait soigné notamment la reine de France, Catherine de Médicis. Alors, c'est plus tard, on est en 1550, 1560, où finalement, on a une reine de France qui, elle, souffre de migraines. Et on se dit peut-être que c'est une plante qui pourrait soulager ces migraines. Donc, on va soigner dans un premier temps avec le tabac. Ça n'a pas trop mal marché dans certains cas. Et donc, on va vraiment penser que c'est un médicament assez miraculeux. On va parler de panacée, un médicament qui soigne tout. Et on va le vendre un peu comme tel, hein. On va vraiment prétendre que le tabac, ça soulage, ça aide, ça accompagne. Et du coup, ça va rentrer un peu dans la culture, notamment française et européenne en général, comme un produit qui est bon pour la santé. Il va falloir attendre quasiment le XXe siècle, hein, donc le siècle précédent, mais c'est pas si vieux, où on va commencer à avoir des publications médicales, parce qu'avant, on ne pouvait pas aussi étudier les corps. Et on se rend compte que le tabac est extrêmement toxique et explique pas mal de maladies, dont le cancer. Et donc, on va commencer à expliquer aux gens que c'est mauvais pour la santé, mais on a des siècles derrière nous de culture autour du tabac où, finalement, aux armées, on va distribuer du tabac. À la Révolution française, on donne du tabac aux enfants pour montrer qu'ils sont dans une mouvance révolutionnaire. Le tabac, c'est aussi une forme de prise de guerre hein, à l'époque de la Révolution française. Donc, c'est quelque chose de c'est une expression de la liberté, souvent, en France. Et c'est encore compliqué de faire comprendre que fumer, c'est au contraire une entrave à notre liberté, notamment parce qu'on devient dépendant, parce qu'on n'arrive plus à arrêter.
La puff est-elle responsable du cancer ? Est-elle mauvaise pour la santé ?
Alors, il faut resituer déjà ce qu'est une puff. Une puff, ce n'est pas une cigarette. On va parler parfois de cigarette électronique. Une puff, ça ne se fume pas. Quand on parle de fumer, c'est qu'on allume, par exemple, une cigarette, on va la brûler, on va créer une combustion et on va créer une fumée. La puff, comme la cigarette électronique, on va allumer de manière électronique une puce qui va chauffer un gaz qui ne va pas atteindre une combustion, donc on ne va pas produire de la fumée, on ne va pas produire de vapeur, c'est un gaz qu'on va diffuser. Donc déjà, il n'y a pas la même toxicité. Ça veut dire que le premier problème de santé avec le tabac, c'est la brûlure. Quand on allume une cigarette, l'extrémité de la cigarette, la partie la plus chaude, est environ à 1000 degrés. C'est extrêmement chaud. Quand on va fumer, alors la fumée va refroidir dans le tube de la cigarette, mais on va se brûler. Et le premier problème de santé avec le tabac, c'est la brûlure. La puff, elle ne brûle pas. On est sur des températures beaucoup plus raisonnables qui vont pas induire de brûlure au niveau métabolique, au niveau de la gorge, au niveau de la langue, etc. Il n'y a pas de brûlure. Donc aujourd'hui, on ne peut pas prétendre, en tous les cas, les données scientifiques ne disent pas que la puff provoque des cancers. Ce que la puff peut provoquer, c'est une dépendance au produit, notamment si elle contient de la nicotine. La dépendance, c'est prendre l'habitude d'eux ou ressentir le besoin d'eux, et on peut considérer que c'est le cas. Il y a beaucoup de gens qui sont dépendants de la puff. Et l'autre problème de la puff, c'est qu'il y a d'autres produits toxiques dont on ne connaît pas encore tout à fait l'incidence. On a des publications, c'est-à-dire il y a des scientifiques hein, qui nous donnent un petit peu des résultats de la science que l'on peut aujourd'hui prétendre connaître. Notamment, on va parler de poumon pop-corn, ça veut dire que le poumon va créer des sortes de cavités à l'intérieur qui peuvent éclater, donc on peut avoir des problèmes pulmonaires qui vont apparaître, etc., etc. Donc parler de cancer avec la puff, c'est peut-être pas un sujet encore aujourd'hui, mais peut-être que dans quelques années on le dira, mais par contre on sait que la puff est un produit toxique, ce n'est pas le même produit toxique que la cigarette, mais il ne faut pas le minimiser.
Le problème de la puff, c'est que ça donne envie. Il y a de plus en plus de jeunes qui en fument, ça incite d'autres jeunes. Et après, les jeunes continuent de fumer. Vous pouvez nous donner des explications sur ce phénomène ?
Alors c'est très juste, hein, c'est une belle analyse. Effectivement, la puff, ça a été créé au départ pour aider... Alors c'était pas la puff, c'est la cigarette électronique, plus largement, elle avait été créée pour aider les gens à arrêter de fumer. C'était plutôt l'intention de départ. Petit à petit, ça s'est généralisé, vulgarisé, ça veut dire que les gens ont voulu le consommer de manière un peu ludique, pour s'amuser, pour passer le temps peut-être, pourquoi pas pour découvrir. Et la puff a été créée plutôt pour les adolescents. Il faut rappeler qu'en France, il est interdit de vendre de la drogue au moins de 18 ans. La puff est considérée comme quand même un produit dopant, donc c'est une drogue qui a été créée pour les jeunes, avec un courant spécifique qui serait de la facilité. Ça veut dire qu'en fait, quand on achète une puff, il y a déjà tout à l'intérieur, il n'y a rien à faire, il n'y a plus qu'à consommer. Et en général, il y a des parfums plutôt sucrés, fraises, vanille, enfin des trucs plutôt attractifs pour un jeune public. Donc ce produit-là, il est quand même très critiquable parce qu'il s'adresse plutôt aux jeunes. Et un jeune qui goûte à un produit qui a le goût de la fraise, il va peut-être minimiser en se disant bah, « si c'est à la fraise, ça ne peut pas être mauvais pour la santé ». Il va peut-être trouver ça cool, peut-être le copain d'à côté va se dire « ah bah tiens, puisque tu en as une, c'est peut-être pas si grave, donc je vais pouvoir aussi en prendre une, etc. » On va parler d'effet de banalisation, ça veut dire que bah, si d'autres le font, pourquoi je ne le ferais pas ? Et finalement, aujourd'hui, on se retrouve en France avec un problème, c'est qu'un produit qui est mauvais pour la santé a trouvé à un moment donné un public qui a trouvé ça banal de le faire, a considéré que c'était normal de consommer un produit mauvais pour leur santé, et les copains ont voulu reproduire le même geste. Et finalement, aujourd'hui, les puffs sont très majoritairement consommés par des adolescents qui s'exposent à des problèmes de santé à moyen terme ou à long terme.
Comment faire pour résister à cette influence ? Vous avez des conseils ?
J'aurais presque envie de vous retourner la question. Hein. C'est difficile de savoir comment on peut résister quand on a un super copain, ou on pense en tous les cas que ce soit un super copain ou une super copine, qui propose un truc comme ça, qui dit bah, « vas-y, goûte », etc. C'est peut-être difficile de dire non. Il y a aussi la pression du groupe. Je crois qu'il faut rappeler que déjà, la puff, il faut expliquer aux jeunes générations que la puff, c'est mauvais pour la santé, parce que souvent, ils ne le savent pas. qu'on risque de ne plus pouvoir arrêter, que ça risque de coûter très cher au porte-monnaie, que ça risque de coûter très cher à la santé aussi, que peut-être qu'aujourd'hui, on commence pour essayer, mais peut-être qu'on se reverra dans 10 ans et on sera encore en train de consommer, en train de se dire comment je vais pouvoir arrêter parce que je n'y arrive pas. Et rappeler aussi que lorsqu'il s'agit de la cigarette, si on s'éloigne du sujet puff, c'est un produit qui peut rendre rapidement malade, avec beaucoup de problèmes. Alors déjà au niveau de la croissance, au niveau aussi du corps, hein, on va développer plus d'acné, on va avoir les cheveux gras, on va avoir des problèmes dentaires, on va avoir une mauvaise haleine, on va avoir plein de soucis de cet ordre-là. Et à moyen terme, des maladies peut-être graves, et notamment comme le cancer. Donc se rappeler que ce sont en tous les cas deux produits mauvais pour la santé. Et je précise aussi que on parle souvent de la nicotine. La nicotine, on a l'impression que c'est pas grand-chose, que c'est pas très grave, etc. La nicotine, c'est un insecticide que fabrique la plante tabac pour se protéger. Donc c'est un poison. C'est un poison aussi pour l'homme, du coup. Et souvent, la nicotine, on la retrouve aussi dans les cigarettes électroniques. Cette nicotine, elle est à manipuler avec précaution parce que c'est un produit qui peut faire accélérer le cœur et aussi occasionner des problèmes de santé. Donc la puff et la cigarette traditionnelle ne sont vraiment pas à minimiser en termes de santé.
Les gens savent que c'est mauvais pour la santé, que ça peut donner des addictions. Alors pourquoi ils commencent et pourquoi ils fument aussi ?
Bah, je crois que c'est déjà la pression du groupe, comme on disait. Hein. Ouais. Et puis encore une fois, cette idée de banalisation, on a souvent l'impression... Moi j'entends des fois en consultation des gens qui me disent « mais tout le monde fume ». Comme si c'était normal de fumer. Alors, c'est pas normal de fumer, avaler de la fumée, enfin, on ne l'avale pas d'ailleurs, ça ne va pas dans l'estomac, ça va dans les poumons. Respirer de la fumée, ce n'est pas naturel, ce n'est pas normal et ce n'est pas bon pour la santé. Notre organisme n'est pas équipé pour ça. Et puis, on a l'impression que tout le monde fume, ce n'est pas vrai, vous l'avez compris. C'est même plutôt démodé de fumer, c'est plutôt, j'allais dire, un peu ringard de fumer, ça ne se fait plus trop. Il y a d'autres mouvements qui apparaissent, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Mais le tabac, souvent, ça s'est resté très présent, y compris dans la culture, parce que si vous regardez des séries, je pense à des séries qui reviennent là actuellement sur les réseaux, Peaky Blinders, etc., on voit beaucoup des acteurs en train de fumer encore. On voit que finalement, dans notre entourage, on voit de moins en moins de fumeurs. C'est devenu assez anormal, dénormalisé de fumer. Mais finalement, dans la culture générale, on continue de voir des artistes fumer. On continue à voir des chanteurs, peu importe, qui fument. Et ça continue à entretenir l'idée que c'est classique de fumer, alors que c'est pas normal. C'est des personnes qui vont tomber malades. On n'est pas fumeur et en bonne santé. Ça n'existe pas.
Est-ce que l'entourage des fumeurs peut aussi avoir des maladies ?
Alors, on va parler de tabagisme passif, effectivement, mais c'est valable aussi pour le vapotage passif. Le tabagisme passif, c'est, imaginons que dans ce studio, je fume, la combustion de ma cigarette, la fumée qui va se dégager de ma cigarette, va flotter dans la pièce pendant 8 à 10 heures si on n'aère pas. Et alors moi, en tant que fumeur, je ne suis pas fumeur, mais je prends un exemple si j'ai l'été, si je fumais, je respirerais, je serais le premier à exposer à cette fumée, hein, d'accord ? Parce que je vais respirer le courant primaire, on appelle ça, celui que je respire quand je fume, mais je vais aussi respirer la fumée qui flotte dans la pièce. Cette fumée, elle est très dosée en monoxyde de carbone, en ammoniac, en tout un tas de produits, en nicotine aussi. Et donc moi, je vais déjà m'intoxiquer un peu plus. Mais le non-fumeur, la personne qui vit avec un fumeur ou qui travaille avec un fumeur, va aussi s'intoxiquer parce que cette personne va respirer pendant 8 à 10 heures cette fumée qui va flotter et qui va occasionner... On sait qu'il y a à peu près 3 000 à 5 000 décès par an de personnes qui vivent avec des fumeurs ou qui travaillent avec des fumeurs parce que ce sont des personnes qui ne fument pas mais qui s'exposent malgré tout à la toxicité des produits qui flottent autour de cette cigarette.
Au bout de combien de temps on commence à avoir des problèmes pour la santé quand on est fumeur ?
C'est quasiment immédiat. Ça veut dire que dès qu'on prend une cigarette, déjà, on avale 7000 composants chimiques. Ça veut dire qu'on va se retrouver à avaler de la morora, on va avaler de l'acétone, de l'ammoniac, on va avaler tout un tas de produits toxiques et polluants. Et ces produits vont dégrader progressivement l'organisme. On va avoir une plus mauvaise circulation sanguine, on va avoir des goudrons, parce que les goudrons ne sont pas contenus dans la cigarette, hein, ils sont fabriqués parce qu'on brûle la cigarette, on brûle des végétaux, donc on va fabriquer du goudron. Les goudrons vont tomber dans les poumons, et donc ils vont perturber les échanges gazeux qu'on a normalement, naturellement, dans le système pulmonaire. Et puis, ça va accélérer le rythme cardiaque, donc ça va fragiliser aussi les vaisseaux sanguins, et etc. Donc, tout l'organisme va être impacté par le tabagisme dès la première cigarette. Ce n'est pas forcément un cancer, évidemment, dès la première cigarette, mais l'organisme est de suite impacté par le tabagisme.
Pour quelqu'un qui aimerait arrêter de fumer, comment faire ?
Alors, on n'est pas obligé d'aller voir des tabacologues pour arrêter de fumer. Vous voyez, je ne fais pas ma pub. Hein. On peut arrêter de fumer seul. Il y en a plein qui arrivent à arrêter seul. On n'est pas obligé de prendre des médicaments pour arrêter de fumer. Tout le monde n'en a pas besoin. Il existe en France un kit, ce qu'on appelle maintenant le kit Moi sans tabac. C'est un kit qui est totalement gratuit, qu'on peut demander à la Ligue contre le cancer, qu'on peut demander à Promotion Santé aussi. On peut le demander en pharmacie. C'est un kit qui permet de passer des tests qu'on peut faire à la maison tout seul, hein, ils sont très faciles à passer, et qui permettent de savoir si on aurait besoin de médicaments pour arrêter de fumer. Bah, si le test il est négatif, en gros, eh ben, y a d'autres alternatives qui seront proposées. Si le test est positif, qu'on a besoin de médicaments, eh bien, le pharmacien souvent saura conseiller, etc., pour dire ce qu'il convient de prendre. Souvent, les gens nous disent « mais enfin, je suis dépendant de la nicotine, je veux arrêter de fumer, vous me donnez de la nicotine, c'est pas logique ». En fait, on est dépendant de la nicotine qu'à condition qu'elle apparaisse sous forme de shoot. Quand on prend une cigarette, on crée un shoot de nicotine. Un shoot, je ne sais pas si c'est clair, c'est on respire la nicotine et ça monte de suite au cerveau. Ça crée un pic métabolique. Ça veut dire que vraiment, ça arrive très rapidement au cerveau. C'est ça la dépendance. C'est ça qui va créer la dépendance. Si on prend un patch de nicotine, si on prend un comprimé de nicotine, donc c'est un médicament qu'on va trouver en pharmacie, eh bien, on va respirer de la nicotine, mais elle va monter très lentement au cerveau, elle va soulager du manque, mais elle ne va pas créer la dépendance. Elle va simplement combler le manque, et progressivement, nos récepteurs, ce qui permet d'absorber la nicotine au niveau du cerveau, nos récepteurs à la nicotine vont s'endormir à force de recevoir trop de nicotine, et petit à petit, le fumeur sera de moins en moins sensible à la nicotine, et de moins en moins dépendant. C'est pour ça qu'on va descendre progressivement les quantités de nicotine à prendre. Et puis, il y a d'autres personnes qui sont dépendantes pour d'autres raisons, on l'a dit, hein, pas dépendant plutôt psychologiquement, je gère mes émotions avec le tabac, ou bien des personnes qui ont une dépendance liée plutôt à l'habitude, on va la qualifier, la dépendance comportementale. Dans ce cas-là, il y a des techniques qu'on peut utiliser, qu'on peut trouver seul. Par exemple, on sait si on va arrêter de fumer, qu'on est plutôt sensible au tabac, qu'on aime bien le goût du tabac, par exemple. On a intérêt parfois à augmenter sa consommation en produits acidulés, manger des mandarines, ce genre de choses, ou des fruits ou des légumes, quels qu'ils soient, parce qu'il y a une incompatibilité de pH entre la cigarette et les produits acidulés. Ça veut dire qu'on va moins aimer sa cigarette si on mange un peu plus acidulé. Et on a plein de gens qui diminuent leur consommation de tabac en mangeant un peu plus de fruits et de légumes. C'est tout à fait naturel, c'est tout à fait en plus bon pour la santé. Et en plus, ça permet de diminuer sa consommation de tabac sans se mettre en difficulté.
À la Ligue, vous accompagnez seulement les fumeurs qui ont le cancer ou aussi tout le monde ?
À la Ligue contre le cancer, on accompagne tout le monde. On a des personnes qui ne sont pas fumeuses et qui veulent aider leur compagnon ou leur compagne à arrêter de fumer. Donc on peut les recevoir. On a des personnes qui sont fumeuses et qui ne sont pas malades, qui veulent trouver des solutions pour diminuer ou pour se renseigner. Enfin bref, on peut étudier toutes les situations. Et évidemment, on a malheureusement aussi des personnes qui sont malades et qui sont fumeuses et qui n'arrivent pas à arrêter de fumer. Et on est aussi là pour les accompagner. Donc en fait, on peut se renseigner auprès de la Ligue contre le cancer si on n'est pas malade, et c'est tant mieux, et autant en profiter pour trouver des solutions, pour prendre soin de sa santé. On est là pour répondre à toutes les demandes.
Et les gens qui veulent arrêter, c'est eux qui viennent ou vous qui venez à eux ?
Il y a les deux. En fait, on a des personnes qui nous appellent et qui prennent rendez-vous, qui viennent nous rencontrer. Mais on va aussi à la rencontre, on fait des groupes d'aide à l'arrêt du tabac. On fait des groupes d'entraide aussi, c'est un peu différent. C'est des personnes qui ont arrêté de fumer, mais qui veulent continuer, qui veulent se maintenir dans l'arrêt du tabac, parce que des fois, on a arrêté, et c'est bien, mais on a peur de reprendre. Donc, on a aussi des groupes d'entraide. On a des groupes d'aide à l'arrêt du tabac dans les lycées, par exemple, aussi, des fois, pour les internats, dans les entreprises. En fait, c'est un peu à la carte. On nous demande. Les prestations de la Ligue contre le cancer sont gratuites, parce qu'on est soutenu grâce à des dons. Donc, on arrive à mener des actions intelligentes et adaptées en fonction des demandes.
Et concrètement, si un auditeur a envie de vous joindre et d'en savoir plus, comment fait-il ?
Alors, on peut nous contacter directement par téléphone. Alors, je vais donner le numéro de téléphone, le 04 75 64 19 19. Dans ce cas-là, c'est la ligne directe pour la Ligue contre le cancer. On peut aller sur notre site internet aussi pour avoir un peu des renseignements. Et puis, si jamais des personnes sur le secteur d'Aubenas souhaitent rencontrer des professionnels pour arrêter de fumer. La Ligue contre le cancer, on a notre siège qui est à Privas. Sur Aubenas, ça sera peut-être plus nos collègues de l'équipe de l'ELSA, on appelle ça. C'est l'équipe de liaison et de soins en addictologie. Cette équipe, elle est basée à l'hôpital d'Aubenas. C'est totalement gratuit, c'est par contre sur rendez-vous, bien évidemment. Donc il y a des psychologues, des infirmiers, des médecins, tout un tas de professionnels pour accueillir et accompagner gratuitement les personnes pour arrêter de fumer. Il ne faut pas hésiter. On a la chance d'avoir de bons professionnels sur le secteur. Il faut en profiter. Et puis il y a des solutions à toute situation. Et c'est jamais trop tard pour arrêter de fumer.
Et la question traditionnelle, que pensez-vous des radios en milieu scolaire comme InfoRC ?
Moi, je suis un client fidèle. Hein. Je vous écoute, je viens vous voir. Je pense que c'est une chance déjà de pouvoir développer pareil projet sur un établissement comme le vôtre. Et puis, je vous félicite pour le travail et la contribution que vous apportez. Je pense que c'est une découverte. C'est aussi découvrir un métier et puis découvrir une communication nouvelle. Et moi, je suis très fier de pouvoir être parmi vous aujourd'hui. Je vous félicite de votre contribution.
On remercie Xavier Fenouille, le directeur de la Ligue contre le cancer de l'Ardèche, pour sa disponibilité.
Cette émission a été présentée par
Elisa
et Nora.
À bientôt sur nos fréquences et la web radio InfoRC.
La voix des jeunes face aux addictions. Une action jeunesse pour garder des bonnes ondes. Avec InfoRC, cultivons des attitudes positives pour notre santé.
Une action soutenue par l'ARS, l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, la MIDECA, mission interministérielle de lutte contre la drogue et les conduites addictives et l'éducation nationale.